Alors bonjour à chacun. Ça fait quelque temps qu'effectivement on ne s'est pas vu de si près, mais ça fait du bien. Et c'est vrai que ça reste différent. Et on a tous besoin, que Dieu nous accompagne dans notre manière de réagir à cette situation, hein, qui est inédite. On sait que Luther a vécu des épidémies de peste, mais personne n'est là pour dire comment les choses se sont passées à l'époque pour les chrétiens. Voilà, en tout cas, on croit que Dieu est là. Je crois, et je pense qu'on est nombreux à croire que une épidémie de cette ampleur ne peut être que voulue par Dieu, que ce soit pour notre monde, mais que ce soit aussi pour nous chrétiens. Et voilà, on peut lui faire confiance parce qu'on sait que tout ce qu'il fait, il le fait avec sagesse, avec amour et pour notre bien. Voilà. Je crois que je viens d'exploser la prise de son. Voilà. Alors, je vous propose ce matin de prendre un texte, un nouveau texte dans les Actes. La semaine dernière, on était à Actes 11. Et on va maintenant s'arrêter sur Actes 12. Et je vous propose qu'on puisse prendre la lecture à partir de la fin de Actes 11, à partir du verset 27. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent : Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent : C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper, et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, si on prend un peu le contexte général de ce texte, dans le livre des Actes, on s'aperçoit que ce chapitre 12, c'est un point de bascule. Certains ont dit que c'est la fin du tome 1 de l'Acte des Apôtres. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs passages de relais. Le premier passage de relais, c'est entre Pierre et Paul. Alors ça, c'est une peinture d'un peintre il y a quelques années. Ce n'est pas moi qui l'ai fait hier. Et qui est Pierre, qui est Paul ? Ah, il y a des indices. Christian, tu avais un indice ? Paul est plus jeune. Il y a Pierre qui tient les clés du royaume de Dieu. Voilà, petit détail. En tout cas, on voit ici, en acte 12, un point de relais, un point de bascule entre Pierre et Paul. Et je trouve que cela nous montre que, quelque part, ce n'est pas, comme ça nous a été rappelé à diverses reprises dans notre série sur les actes, que ce n'est pas les actes des apôtres, ou ce n'est pas les actes de Pierre, ce n'est pas les actes de Paul, mais c'est vraiment les actes du Saint-Esprit qui agit au travers des apôtres et qui dirige selon son dessein. On voit qu'il y a un autre passage de relais, c'est entre Jérusalem et Antioche. Et Antioche va devenir le centre névralgique du christianisme à partir de ce moment-là. On voit aussi que, et on le voit, le point est scellé, entre guillemets, mais en tout cas la porte est définitivement ouverte en acte 11, qu'on passe des Juifs aux païens. En acte 11, Pierre va avoir cette vision chez Corneille, et donc on voit que le salut s'ouvre à tous et que tout devient possible. On voit dans les actes que l'évangile continue inexorablement de se répandre envers et contre tout et contre tous, malgré la persécution, malgré la colère d'Hérode, malgré la colère du peuple juif dont Dieu se joue. Dieu est souverain et son évangile avance. Alors, le contexte de notre texte, au verset 1, il est indiqué « vers le même temps ». Alors, « vers le même temps », c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose avant. C'est pour ça que j'ai voulu lire les quelques versets. D'autres versions vont dire « à cette même époque ». Et à cette même époque, il y a une famine mondiale. Ils ont faim. Il y a, non pas une pandémie, mais une famine mondiale et qui a entraîné une entraide entre les différents chrétiens. Je relis le verset 29 de acte 11. « Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. » Il y a une famine mondiale et en Judée, il y a une persécution de l'Église par Hérode. Cet Hérode-là, il y en a beaucoup dans la Bible. Cet Hérode-là, c'est Hérode Agrippa Ier, qui est petit-fils d'Hérode Ier. Et on se souvient, c'est celui qui a fait assassiner les premiers-nés à l'époque de la naissance. Dans le contexte aussi de cet emprisonnement de Pierre, on voit que Jacques vient d'être mis à mort. Donc Jacques, c'est le Jacques, fils de Zébédée, c'est l'apôtre, qui est différent du Jacques de la fin, qui est le demi-frère de Jésus et qui est responsable de l'église de Jérusalem. En tout cas, l'apôtre Jacques est mort, et il est mort d'une manière assez particulière, c'est qu'il est mort par l'épée. Et la mise à mort officielle des Juifs était la lapidation. Et la mise à mort par l'épée signifie, quand on prend l'Ancien Testament d'après Deutéronome 13, que Jacques aurait entraîné avec lui le peuple à suivre des faux dieux. C'est-à-dire que les autorités considéraient Jacques comme un hérétique. Alors il est mort sous la main d'Hérode, mais cela réjouissait au plus haut point les chefs juifs, les mêmes qui ont crucifié Jésus, qui cherchaient désormais à étouffer l'Église naissante. Et quand on regarde bien l'histoire, Hérode avait intérêt de se faire aimer par les Juifs. Donc il faisait tout ce qui leur faisait plaisir. Parce qu'il avait été mis en place par les Romains pour calmer l'agitation en Palestine. Bref, on est devant une sombre histoire politique d'intérêt personnel. comme il n'y en a plus hein, maintenant, bien sûr. Et je vous propose ce matin de nous arrêter dans un premier temps sur la réaction de Pierre, et dans un deuxième temps sur la réaction de l'Église de Jérusalem. Alors, la réaction de Pierre. Donc, Pierre vient d'être, juste avant, l'outil de Dieu pour ouvrir le salut aux Samaritains, quelques chapitres avant, puis aux païens, avec l'épisode de sa vision chez Corneille. Pierre est sur un sommet spirituel de service pour Dieu, et il se retrouve emprisonné, attaqué, persécuté, comme l'a été Élie après avoir terrassé les 400 prophètes de Baal. Alors, je ne sais pas quelle est votre vision ou quelle est votre expérience de la vie de service, mais il semble que ce ne soit pas un long fleuve tranquille. Alors, concernant Pierre, il se retrouve emprisonné injustement, car comme on l'a dit, il se retrouve au milieu d'enjeux politiques qui le dépassent. En Jean 20, 21, verset 18, Jésus-Christ lui a fait une promesse. Et sa promesse, c'est « en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Jésus lui a promis qu'il vivrait longtemps. Cette promesse doit lui donner de l'assurance. Et c'est peut-être pour ça, sûrement pour ça, qu'il arrive à dormir dans cette situation. Pierre se sait donc dans la main de Dieu et dort paisiblement. Il a confiance dans les promesses de Dieu. Néanmoins, personnellement, je pourrais avoir quelques doutes, car Jacques vient d'être exécuté. Il est emprisonné depuis plusieurs jours maintenant. Il est sous bonne garde par 4 escouades, c'est-à-dire 16 soldats. Alors en fait, c'est 4 fois 4 soldats, si on regarde la pratique à l'époque de l'armée romaine pour garder les prisonniers. En fait, 4 soldats se relaient toutes les 3 heures pour garder le soldat. 2 enchaînés, 2 devant la porte. Et ils se relaient toutes les 3 heures. De plus, il doit comparaître devant le peuple juif hostile qui a jusqu'à présent pas montré beaucoup de clémence et beaucoup de compréhension à la cause de l'Évangile. Mais ce que je retiens de ce passage, c'est que quand Dieu promet, on peut s'appuyer dessus. Quand Dieu promet, on peut s'appuyer dessus. Et ce texte est encore une illustration qu'en Dieu, la paix est possible, même dans l'épreuve. Alors ensuite, on a la délivrance de Pierre, au verset 7, une délivrance extraordinaire. Dieu intervient directement. Il y a une grande lumière, des chaînes qui tombent, Pierre se rhabille, sa ceinture, ses sandales, son manteau, il traverse les 2 gardes, la porte en fer s'ouvre. Une intervention extraordinaire. C'est intéressant de voir que Pierre obéit comme un enfant avant d'aller à l'école. Enfin, comme on aimerait qu'un enfant obéisse avant d'aller à l'école. Il est comme dans un rêve, comme porté par Dieu. Dieu délivre Pierre avec puissance. Je me suis quand même posé une question, vu que Dieu est intervenu d'une manière extraordinaire. Pourquoi Dieu ne l'a pas télétransporté? Enfin, on n'est plus à ça près. Pourquoi il ne l'a pas pris de la prison et il ne l'a pas mis directement dans la rue? Intéressant de voir que Pierre reste quand même acteur. Il fait ce qui est à sa portée. Il s'habille et il obéit. Il ne murmure pas. En disant « oui, mais quand même, il y a beaucoup de gardes, hein ?» Et puis il y a la grosse porte en fer après. Alors là, si on passe, de toute façon, il y a la porte en fer. Donc on va s'arrêter là. Puis on va peut-être croiser la relève. Là, ils viennent toutes les 3 heures. Pierre obéit. Et Dieu fait le reste. Et là, on a un principe biblique. Voilà. Quand on fait un premier pas d'obéissance, Dieu fait 10 000, je m'arrête là, hein, parce que je n'arrive pas à compter jusqu'à plus, 10 000 pas de délivrance. Quelque part, le premier pas d'obéissance, c'est aussi les 5 pains et les 2 poissons. Quel est le premier pas que Dieu te demande? Est-ce de lui confier ta vie? Est-ce que tu as un péché à confesser? Est-ce un pas concernant ta vie professionnelle ou plutôt ta recherche d'activité? Est-ce un service ou un engagement que Dieu te demande de prendre? Ce que je trouve rassurant, c'est que Dieu nous montre ici et aussi à maintes reprises dans les Écritures que s'il attend de nous un pas d'obéissance, c'est pour faire 10 000 pas pour notre délivrance. Pierre obéit. Et Dieu fait le reste. Alors, j'aimerais maintenant qu'on regarde la manière dont Dieu agit. Dieu agit ici, je ne sais pas comment vous le qualifiez, mais miraculeusement. Mais Dieu n'agit pas toujours comme ça. Il y a un principe important que j'aimerais souligner ici, particulièrement dans le livre des Actes, c'est que le livre des Actes n'est pas normatif. Le livre des Actes raconte, il est narratif. Il raconte ce que le Saint-Esprit a réalisé au travers des apôtres au premier siècle. Le livre des Actes est narratif, mais il n'est pas normatif sur la vie chrétienne. Sinon, on pourrait dire en exagérant, puisque Dieu a délivré Pierre ainsi, il délivrera tous les chrétiens prisonniers miraculeusement. Malheureusement, tous les chrétiens persécutés ne sortent pas de prison de cette manière. Vendredi soir, dans notre réunion de quartier, nous avons prié pour nos frères et sœurs en Érythrée. On estime entre 1 200 et 3 000 frères et sœurs en Érythrée, emprisonnés dans des containers en plein désert, soumis à la persécution, etc. Plusieurs années, voire des dizaines d'années pour certains d'entre eux. Parfois, la souffrance dans l'épreuve, voire dans l'emprisonnement, fait partie du chemin. Et il y a de nombreux exemples dans l'histoire chrétienne. Paul, un peu plus tard d'ailleurs, dans la parole, Corrie ten Boom, dans les camps de concentration, Marie Durand, sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus ce matin. Marie Durand a vécu sa foi pendant l'époque du désert. En France, l'époque du désert, c'est 100 ans d'interdiction du protestantisme en France. Le 14 juillet 1730, à Pranles, en Ardèche, qui est juste à côté de chez mes grands-parents, une jeune paysanne protestante de 19 ans et l'homme qu'elle a épousé quelques mois plus tôt sont arrêtés. Lui sera emprisonné 20 ans et elle pendant 38 ans dans un autre lieu. Ils ne se reverront jamais. Elle a été arrêtée parce qu'elle a tué quelqu'un. Non, pas du tout. Elle a été arrêtée parce qu'elle a participé à des réunions interdites. Peut-être des études bibliques, des réunions de prière, des groupes de jeunes. À 19 ans, peut-être qu'elle faisait partie encore du groupe de jeunes, s'il y en avait un à l'époque. Des cultes. Elle a été arrêtée pour participation à des réunions interdites et pour être la sœur de Pierre Durand, pasteur en fuite. On arrête Marie pour faire pression sur son frère pour qu'il se rende. Il sera finalement trouvé et pendu 2 ans plus tard. Quant au père de Marie, il passera 14 ans en prison. La mère, elle, a été arrêtée 10 ans plus tôt et depuis, elle n'est plus réapparue. Marie se retrouve seule. Pas tout à fait. Elle vit dans la tour de Constance. Enfin, elle vit. Elle est détenue dans la tour de Constance, où il y a plusieurs salles communes, alors pleines d'humidité et de fumée, en compagnie d'un groupe de femmes protestantes, arrêtées comme elle pour sa foi. Pendant les 38 ans que Marie Durand va passer à la tour de Constance, il y aura entre 20 et 30 femmes. Et malgré son jeune âge, Marie deviendra peu à peu la figure majeure du groupe. C'est elle qui représente les autres quand il faut écrire un courrier, celle qui se préoccupe du sort de chacune, celle aussi qui tient bon quand les autres flanchent, celle qui les enseigne et qui leur répare leurs vêtements. Marie n'est pas seule, car elle est aussi soutenue par les chrétiens à l'extérieur, qui prient pour Marie. Et elle n'est pas seule, bien sûr, parce qu'elle s'appuie sur une foi en un Dieu souverain, en qui elle a pleine confiance et qui la soutient jour après jour. C'est une foi dans la grandeur de Dieu, le soleil de justice, le souverain juge, le divin maître, mais aussi le Dieu de miséricorde et de toute consolation, selon un Dieu qu'elle ne critique jamais, dont elle ne doute jamais, et de qui elle attend toute libération. Un Dieu aussi à qui elle s'en remet quand tout va mal, quand elle est découragée, dans une forme de soumission aux événements. Soumettons-nous à sa sainte volonté, écrit-elle. Dieu veut tout ce qu'il m'arrive, je le loue en tout. Elle va même jusqu'à écrire dans un moment de découragement, « Quand tu me tuerais, Seigneur, j'espérerai toujours en toi. » Quelle persévérance dans l'adversité. 38 ans. Marie Durand a résisté pendant 38 ans en s'appuyant sur le même Dieu qui a délivré Pierre. Résister, un mot qui a été écrit dans la margelle de la tour. Dieu a agi dans la persévérance de Marie Durand autant que dans la délivrance de Pierre. Dieu a agi dans la persévérance de Marie Durand autant que dans la délivrance de Pierre. Dans ce texte aussi qu'on vient de lire, Jacques a été exécuté et Pierre délivré. Comment le comprendre? Est-ce que Pierre avait plus de foi que Jacques? Est-ce qu'il avait reçu plus de Saint-Esprit? Est-ce que Pierre était un meilleur chrétien que Jacques? Et parfois, quand on lit les Actes des Apôtres, on a ce genre de questions qui viennent. La réponse est que Dieu est souverain. Et c'est lui qui décide des chemins qui nous sont réservés. Dans la délivrance de Pierre ou dans l'enfermement de Marie Durand, Dieu a agi différemment, mais avait son plan dans les deux cas et est resté proche des deux dans les deux cas. Si on prend un autre prisonnier, en la personne de Paul, si on prend du recul sur le plan de Dieu, on s'aperçoit que les lettres de Paul, lorsqu'il était en prison, ont encouragé au final beaucoup plus de frères et de sœurs au travers des siècles que ce qu'il n'aurait pu réaliser de son vivant en pleine liberté de ses mouvements. Ce qui est rassurant aussi, c'est que Dieu connaît ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dieu ne nous a pas promis d'enjamber toutes les épreuves de nos vies. Mais il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours. On pourrait aussi dire que Dieu intervient parfois avec puissance et parfois avec persévérance, mais toujours avec sagesse et selon son bon. Alors maintenant, je vous propose qu'on s'arrête sur la réaction des frères et sœurs de l'Église de Jérusalem. Face à la persécution et à la famine, l'Église de Jérusalem prie et s'attend à Dieu. Martin Luther affirmait « Tout comme le travail des tailleurs est de fabriquer des habits et le travail des cordonniers, des souliers, le travail des chrétiens ». Les chrétiens de Jérusalem prient ardemment et sont surpris par la réponse. Vous avez noté ça dans le texte? Ils n'y croient même pas, ils ne vont même pas voir à la porte. Notre Dieu est le Dieu des surprises. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Question posée à Sarah, femme d'Abraham, en Genèse 18, car elle ne croyait pas possible qu'elle puisse enfanter à 90 ans, à plus de 90 ans. Mais Dieu lui réservait une surprise. Si les chrétiens de Jérusalem sont surpris, je me suis demandé pourquoi priaient-ils alors? S'ils sont surpris que Pierre est délivré, pourquoi priaient-ils? Pour la fin de la famine? Ou pour de la nourriture? Pour la paix dans le cœur de Pierre? Il dormait. Pour sa protection? Ils ont tous en tête que Jacques vient d'être exécuté. Pour le jugement d'Hérode? Et on va voir en acte 12, un petit peu plus loin, au verset 23, que Hérode va mourir dévoré par les vers, qui est un jugement réservé à ceux qui défient Dieu. Peut-être priait-il pour sa délivrance, ou peut-être pas, vu qu'ils sont surpris. Je trouve très révélateur cette citation de John, excusez-moi, je vais écorcher son nom, Onwood Chekwa, dans son livre sur la prière, que Aurélie Bricot a repris dans un article cette semaine sur TPSG. Notre manque de prière vient en grande partie du fait que nous croyons subtilement que la possibilité de l'échec existe en Dieu. À cause de cela, nous ne demandons jamais à Dieu de faire l'impossible. À la place, nous ne recherchons que les choses que nous pouvons accomplir. À cause de cela, nous ne demandons jamais à Dieu de faire l'impossible. À la place, nous ne recherchons que les choses que nous pouvons accomplir nous-mêmes. Ce texte nous invite à être audacieux dans nos prières et à faire monter des prières à la carrure de notre Dieu. Soyons audacieux dans nos prières et souvenons-nous aussi que notre Dieu est le Dieu des surprises. Alors comment priaient-ils ces frères et sœurs de Jérusalem? Par Zoom? Les frères et sœurs de Jérusalem se réunissent pour prier chez une sœur, en grand nombre, d'après Sommer, malgré la persécution. On dirait une réunion de prière décentralisée, vu qu'un autre groupe a l'air de se réunir avec Jacques à un autre endroit. Une première remarque au passage, c'est que la réunion de prière décentralisée est dans la maison de Marie. Marie, c'est la tante de Barnabas, la mère de Jean-Marc, alias Marc. Marc, c'est le missionnaire, le compagnon de Paul. C'est l'auteur de l'un des quatre évangiles. Marc a été élevé, influencé et enseigné par une mère qui aimait Dieu et le servait, elle et sa maison. Même en temps de persécution, elle avait donc une vie de disciple cohérente, en foi, en actes et en parole. Comme Timothée l'a été par sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs, les femmes du premier siècle, de l'Église du premier siècle, ont inspiré, ont élevé, ont éduqué les futurs leaders de l'Église. Par l'hospitalité, malgré la persécution, la prière, la formation de futurs jeunes leaders, le ministère féminin est clé et inspirant pour l'Église naissante. Alors si on reprend un petit peu les sujets de prière, les deux grands sujets de prière de la réunion de prière de Jérusalem qui a été annoncée au dimanche d'avant. Donc ils priaient pour la famine. Et Dieu va répondre aux deux sujets de prière de deux manières différentes. Pour la famine, en suscitant l'entraide des frères et sœurs, et on voit ça en acte 11, que Saul et Barnabas sont envoyés pour remettre un don à l'église de Jérusalem. Juste le verset d'avant, on l'a lu ensemble. Et deuxièmement, Dieu va répondre par la libération de Pierre de manière miraculeuse. Dieu a entendu, a écouté et a répondu aux prières. Je ne sais pas vous, mais parfois j'aimerais que Dieu intervienne plus. Que cela soit dans ma vie ou que cela soit dans l'Église. Mais à la lumière de ce texte et du livre des Actes, je me dis aussi que s'il ne se passe pas plus de choses, c'est peut-être parce que nous ne prions pas assez ensemble. Est-ce qu'en fait, le Saint-Esprit n'attendrait pas qu'on lui demande plus d'agir? Chers frères, chères sœurs, dans cette période de pandémie et de restrictions sanitaires, où nous sommes tous bousculés, d'une manière ou d'une autre, que ce texte puisse nous encourager à faire ce qui est à notre portée, à prier ensemble et à nous laisser surprendre ensemble par ce que Dieu va faire. Il y a quelques années, je ne sais plus exactement, peut-être 3-4 ans, on était assis là, à la réunion de prière d'un jeudi soir, et Brigitte Sutherland m'avait proposé, en réunion de prière d'église, de prier pour des baptêmes. J'ai compté depuis décembre 2017, 13 baptêmes. Laissons-nous surprendre. Ce texte fait du bien aussi parce qu'il me déculpabilise par rapport à mes prières hésitantes. George Campbell Morgan, un pasteur de Westminster, a écrit que leur prière, là, il n'a rien écrit, voilà, c'est là qu'il a écrit, leur prière hésitante mais fervente était plus puissante qu'Hérode et plus puissante que l'enfer. Est-ce que ça ne nous encourage pas, ça, à prier, même maladroitement, même avec hésitation? Pour conclure, Dieu, par la prière, peut libérer toutes les chaînes de nos vies. On a vu ici une situation d'emprisonnement, mais bien sûr, on pense à celle du péché qui nous enchaîne si souvent, de la peur, de relations toxiques. Dieu peut nous libérer de ces chaînes et veut nous faire goûter sa liberté, pour laquelle Jésus a payé le prix fort. Mais ce texte nous rappelle aussi que la prière, c'est aussi la poignée qui ouvre la porte en fer de chacun de nos cœurs et de chacun de nos vies pour que Dieu puisse agir. Parfois, il intervient avec puissance et parfois, il intervient dans notre persévérance, selon son bon dessein. Ce texte nous invite à être audacieux dans nos prières et à nous laisser surprendre par notre Dieu, qui est le Dieu des surprises. Pour finir, j'aimerais nous inviter tous à adresser nos prières personnelles et collectives à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour ce texte de Acte 12 qui nous encourage à prier, qui nous encourage à faire confiance à ta souveraineté. Seigneur, c'est vrai que parfois on est bousculé, déboussolé, mais Seigneur, on reconnaît aussi que, et je reconnais aussi que, on n'a pas forcément tout de suite le réflexe de nous adresser à toi. Mais Seigneur, permets-nous, par ta grâce, de toujours plus nous tourner vers toi. Merci de remplir nos cœurs à chacun de ces choses que tu as faites et que tu veux faire encore dans chacune des vies. Merci pour les baptêmes que tu as donnés à l'Église. Et merci aussi parce que tu es à notre écoute à chaque fois qu'on se tourne vers toi. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Veuille accompagner chacun dans ces semaines, dans ses défis, dans ses peurs, dans ses craintes, mais aussi dans ses projets et dans ses joies. Merci parce que tu es à nos côtés quoi qu'il arrive. Amen. Eh bien, François me fait signe.